les rendez-vous avec Alexandra. Jacqueline Hirsch, présidente de l'association Alexandra David-Nel. C'est tout de suite. Bonjour Jacqueline.
Bonjour à toutes et à tous. Alors la semaine dernière, je vous ai parlé de l'amour d'Alexandra pour la musique, pour le théâtre. Et cette semaine, mais sans doute aussi la semaine prochaine, je vous parlerai de son roman qu'elle a écrit justement sur l'opéra, sur la condition des femmes dans le monde du spectacle. Vous vous rappelez, Alexandra a chanté des opéras durant presque une petite dizaine d'années. Elle avait fait des études au Conservatoire de Bruxelles, elle a le premier prix théâtral français. Et donc, pour gagner sa vie, être indépendante et surtout préparer ses études et ses voyages, elle chante donc, elle a des contrats dans des troupes, elle chante des opéras. Mais les contrats vont s'amenuiser. Et elle s'installe à Tunis, et c'est le dernier concert qu'elle ait fait, et partage la vie de Philippe Nel. Nous sommes là en 1901-1902. Elle continue bien sûr d'écrire des articles dans la presse, en particulier une presse féministe, mais elle se met aussi à l'écriture d'un roman, Le Grand Art. Puis, en 1903-1904, un deuxième roman. Ces deux romans évoquent les existences féminines. Le Grand Art, donc, qui est sous-titré Le journal d'une actrice, et le deuxième qui s'appelle Dans la vie, sous-titré Femme moderne. Deux romans donc féministes qui décrivent les existences féminines et les difficultés d'être femme et de travailler. Elle écrit « J'ai produit deux œuvres tendant à combattre pour notre cause en exposant sous forme de roman des existences féminines ». C'est exactement ce qu'est Le Grand Art. Elle raconte dans ce roman tout ce qu'elle a vu, entendu et aussi parfois vécu durant ses années de théâtre d'opéra. Le roman est une peinture de la réalité de cette fin du XIXe siècle et on y rencontre là toute la société, les paysans, les domestiques, les bourgeois et bien entendu le monde du spectacle. Alors ce matin, je vais vous raconter, en fait, vous parler des personnages de ce livre Le Grand Art. Tout d'abord, la narratrice. La narratrice s'appelle Cécile Reynaud. Elle est artiste, chanteuse d'opéra. Ce n'est pas un hasard. Elle n'est pas Alexandra quand même, même si on retrouve vraiment tout au long de ce roman de grands passages de sa vie. On y voit ses parents. On y voit ses études au conservatoire. On y rencontre aussi un certain pianiste, je vous en parlerai tout à l'heure. Le Grand Art est ce qu'on appelle un roman d'apprentissage. C'est-à-dire que l'héroïne, Cécile Reynaud, est jeune, naïve. Elle est confrontée à son environnement, un monde difficile, souvent hostile, cruel. Elle est confrontée vraiment sans cesse à la réalité. Et ce sont ses expériences très douloureuses, qui finalement vont la conduire à mûrir et même à réussir sa vie. Mais elle va rencontrer évidemment, et tout au long du roman, on va les trouver, beaucoup de femmes d'abord qui vont elles aussi raconter sa vie. En fait, ce roman, il est bâti exactement sur le même plan que le journal d'une femme de chambre de Mirbeau. D'ailleurs, dans les archives à la maison d'Alexandra, il y a ce journal d'une femme de chambre. Et elle en parle dans ses lettres à Philippe, elle en parle. Donc construit exactement de la même façon, c'est-à-dire il y a l'héroïne, mais il y a aussi toutes ces jeunes femmes qu'elle rencontre dans sa vie d'actrice. Mais elle rencontre évidemment aussi beaucoup d'hommes. Et c'est là le sujet du roman. Je vais commencer par vous présenter les personnages et puis ensuite je vais vous les décrire. Donc, Grocher, le marchand de bestiaux. La situation va ressembler à ce qu'elle a déjà vécu, c'est-à-dire le directeur de la troupe qui part en emportant la caisse et les pauvres petites actrices, chanteuses se retrouvent sans salaire. Il y a aussi Pierre Alain, le pianiste, qui ressemble évidemment pas mal à Jean Hoston, avec qui elle a fait de nombreux opéras. Elle a chanté beaucoup et c'était son compagnon. le vieux baron de Ribard, propriétaire du château et des terres dans la même campagne que Grouchet. Il a des habitudes étranges, profite de la jeunesse de Cécile, promet de lui faire rencontrer son fils, etc. Le jeune baron de Ribard, lui aussi, qui promet monts et merveilles, il est député, il va profiter aussi de Cécile. Joseph Guérin, le valet du député, il comprend très bien la situation de Cécile, il va aussi profiter de sa candeur, mais finalement, il aura un rôle prépondérant dans la réussite future de l'héroïne. Et enfin, le sauveur, le célèbre banquier de Bernheim, qui lui deviendra amoureux de la nouvelle Cécile Reynaud, qui deviendra alors Chloé d'Avril, une cantatrice célèbre. Donc on retrouve dans ce roman beaucoup d'éléments de la jeunesse d'Alexandra. Ses parents, par exemple, elle parle de ses parents petits boutiquiers, et on sait que sa mère avait un petit commerce de mercerie. Ses amis, dont Jean Houston, les lieux de ses tournées, en particulier l'Indochine. On retrouve aussi toutes les idées, les préoccupations d'Alexandra. Par exemple, son souci permanent de l'argent, tout au long de sa vie. Alexandra souffre de n'avoir pas de l'argent à elle. Elle fait ses comptes, même quand elle gagne de l'argent avec ses éditions, enfin avec tous ses livres, elle fait toujours les comptes. Et il y a des périodes où elle en a vraiment manqué. Mais principalement, on y retrouve ses idées féministes en particulier, sur le mariage. Et cela bien avant l'écriture du roman. Elle écrivait « Profession pour femme » ou « Prostitution légale ». Surtout « Le mariage pour vivre », écrivait-elle. Et dans le roman, eh bien, on trouve deux choristes qui vont épouser des industriels. Donc la réussite, là. Cécile reçoit aussi la proposition de Grouchet, le marchand de bestiaux. Et finalement, le banquier qui l'installe dans un hôtel particulier. Elle y montre la misère des femmes de cette fin de 19e siècle, comme par exemple dans le roman, elle écrit « Mais qu'est-ce qui m'attend à Paris ?» C'est évidemment l'héroïne hein, qui dit cela. « Réussite ou déveine, ce seront encore des hommes, toujours des hommes, gaiement libertins ou cyniquement brutaux, me dévisageant, me déshabillant des yeux, jauchant ma chair, supputant ce qu'elle pourra me donner de plaisir. » En fait, de bons sentiments, les hommes s'adressent aux femmes de théâtre, n'ont guère envie que l'envie de s'amuser d'elles. Elle y décrit même des scènes très érotiques, le vécu des chanteuses de la troupe qui se prostituent, comme le raconte une amie de la narratrice, ou encore les mères maquerelles, mais ça, je vous en parlerai. Donc, pour commencer, j'ai pensé au texte de Grouchet. Grouchet, le marchand de bestiaux. Quand il la rencontre, elle est complètement désarçonnée puisque le directeur de la troupe est parti en emportant la caisse. Il vient la voir et lui dit « J'irai droit au but. Je suis Monsieur Grouchet qui vous a plusieurs fois fait envoyer des fleurs. Je pense que la fuite de votre directeur a dû vous atteindre comme vos camarades qui se lamentent de par la ville. Vos yeux rougis me disent que je ne me trompe pas. Vous m'avez beaucoup, beaucoup plu. Oh, je ne suis pas un méchant homme. Voulez-vous venir chez moi? Je demeure dans les environs, j'ai quelques fortunes. Vous ne manquerez de rien. Voulez-vous ? » Elle écrit plus loin. « En pensant à ces choses, il me semble que j'évoque le souvenir d'un rêve ou que je me rappelle le récit des aventures d'une étrangère. Est-ce bien moi qui ai vécu ces heures ? Est-ce moi qui, transi, l'âme vide, suis arrivée ici à la nuit tombée, dévisagée narquoisement par les servantes. Moi qui, 2 heures après, étais au bras de cet homme inconnu la veille, subissant passivement ses caresses, tellement brisée que, de ma chair, lasse jusqu'à l'anéantissement, ne monta même pas une protestation, un cri de révolte. Et les jours ont passé, des jours monotones et mornes. Seule toute la journée dans cette grande maison, parmi la tristesse mourante de ce pays désolé, j'ai comme unique distraction le dîner, où, bedonnant, l'œil allumé dans sa face épanouie, Grouchet ne me force à manger trop, à boire de vieux vin, riant fort, heureux de lui-même, me grondant quand je ne lui fais pas écho, quand les soucis qui me rongent percent malgré moi le masque souriant que j'ai dû m'imposer. Combien de temps cela va-t-il durer? Combien de temps aurais-je à subir les récits de foire aux bestiaux, puisque Grouchet est marchand de bestiaux? les narrations de ses hauts faits commerciaux, des ruses employées pour duper l'acheteur ou déjouer les malices de paysans finaux. Un peu plus loin, la pluie tombe toujours. Je suis lasse de rester enfermée. Le ronflement perpétuel du gros poêle de faïence, le tic-tac monotone de la vieille pendule m'énerve et la chaleur lourde qui règne dans la salle à manger, dont les servantes n'ouvrent jamais les fenêtres de crainte d'abîmer les rideaux, m'oppresse douloureusement. Pas moyen de songer se tenir dans une autre pièce. Le salon avec son meuble de tapisserie fanée, dont Grouchier a hérité de ses parents, n'est jamais chauffé. La chambre à coucher, la chambre du maître, comme on dit ici, étendue d'un papier au fond gris-perle, au dessin démodé, marbré par l'humidité. L'ameublement est un acajou noirci par le temps. Les trois fenêtres et le lit sont garnis de rideaux de reps, d'un bleu cru atroce, dont la hideur s'augmente encore par l'effet déplorable d'un galon jaune à fleurettes rougeâtres servant de bordure. Oh, cette chambre, j'ai peur d'y rentrer. Le soir, je m'attarde tant que je puis au rez-de-chaussée, poursuivi par les « Eh bien, quoi donc? Tu ne viens pas, petite? Que fais-tu encore ?» dont m'obsède Grouchier. Il faut bien me résoudre à y monter dans l'horrible chambre. Et maintenant, nous allons parler du pianiste qui s'appelle Pierre Alain dans le roman et qui nous fait penser quand même sur beaucoup de points à Jean Austen. Donc, je cite le livre là. « J'ai aimé autrefois, que c'est loin déjà et pourtant si vivant. Dès les premières répétitions, je remarquais le pianiste, un garçon singulier, très différent du type habituel de cet emploi. De taille moyenne, très mince, les cheveux blonds cendrés, les yeux bleus, inquiets et doux. Dissimulée dans l'ombre des portants, je regardais la silhouette grêle de ce corps perdu en des vêtements noirs. Mon Dieu, que c'est loin! Il me paraît que cela s'est passé hier. Je sens encore sur ma main le contact de la main de Pierre. Je ferme les yeux. Il me semble qu'en les ouvrant, j'avais retrouvé mon appartement du 5e à Auteuil, la chambre au papier clair semée de fleurettes, et en face de moi, le visage souriant de mon ami. Notre union dura 3 ans, pendant lesquels nous trouvâmes à nous placer ensemble. Puis la déveine vint, un désastre financier avec clos la saison théâtrale bien avant l'époque prévue. Perdant plus d'un mois d'appointement, nous étions rentrés à Paris vers la mi-février, espérant que des propositions nous seraient faites, d'abord pour la saison de Pâques, ensuite pour des engagements des villes d'où. Rien n'était venu, sinon des offres dérisoires, des appointements que je ne pouvais me résoudre à accepter. L'hiver ne se présentait pas sous de plus heureux auspices. Au mois d'octobre, nous étions encore sans emploi. Ce fut alors que l'on m'offrit un engagement en Grèce. Il fallait partir dans les 8 jours et partir seul, car le directeur avait déjà traité avec un pianiste. 6 mois plus tôt, j'aurais refusé d'emblée, mais la situation était grave. Nos économies fortement entamées ne nous permettaient pas de continuer à vivre sans rien gagner. J'acceptais donc, avec l'idée bien arrêtée, que mon ami viendrait me rejoindre dès que j'aurais touché mon premier mois d'appointement. Là, dans ces passages, c'est exactement ce qu'a vécu Alexandra avec Jean Auston. Et ça se termine effectivement par son engagement en Grèce, puis à Tunis. Et elle ne partira plus, Alexandra, elle ne partira plus en tournée. Donc je continue avec le roman. Le voyage fut pénible au-delà de toute expression. Je m'étais fortement attachée à Pierre, fortement habituée sur sa présence constante. Cette séparation me faisait l'impression d'un rêve impossible. À mon arrivée à Marseille, il me sembla que j'allais le retrouver, que jamais ne me laisserait partir. Jusqu'au dernier instant, sur le pont du paquebot, fouillant de mes regards anxieux les quais déjà voilés d'ombre, je fus hantée par cette folie qu'il allait tout à coup apparaître, me ramener près de lui ou pâtir avec moi. Mais la sirène mélancolique jeta dans la nuit une longue clameur. Le navire largua ses amarres et parmi les sifflements des premières rafales annonçatrices de la tempête, gagna rapidement la haute mer. Pierre n'était pas venu. Pierre ne devait jamais plus venir.
Thank you.
Et maintenant, le vieux baron de Ripart. Donc, il est propriétaire du château et des terres dans la même campagne que Groschet. « Je suis jeune encore, pensais-je. L'hiver passe aussi pour moi, peut-être, et je reste engourdie dans cette maison froide auprès de cet homme vulgaire et ridicule. Mais le printemps reviendra, comme les arbres joyeux, comme les fleurettes des champs, dont les graines ignorées sont disséminées pas maintenant sous la terre fangeuse. Je sortirai de ma torpeur, je m'envolerai au loin. Avec le soleil revenu, je revivrai. » J'allais ainsi en une détente bienfaisante de mes pauvres nerfs, tendus d'un perpétuel agacement, lorsque le craquement des brindilles mortes m'avertit de l'approche de quelqu'un. Je me retournai et vis paraître à la lisière du bois le visiteur de l'autre jour, le baron de Ripart. Il parut un peu surpris de la rencontre, mais aussitôt il me salua d'un air aimable. « Comment, madame ? Vous vous promenez toute seule dans la campagne ? Les chemins boueux ne conviennent guère à des petits pieds comme les vôtres. » Il avait débité cette phrase plutôt niaise, avec une évidente intention de galanterie, mais de galanterie bon enfant, comme celle d'un papa envers sa grande fille. Et il continue. « Ma pauvre enfant, je suis déjà vieux, je connais la vie. Laissez-moi vous parler comme le permet mon âge. Vous êtes jeune. » Habitué au voyage, à l'animation du théâtre, vous ne devez pas vous amuser beaucoup avec cet animal de Groschet. Ce n'est pas une situation pour vous. Voulez-vous que je vous aide à en trouver une autre ? Mon fils, Georges, est député, vous le savez peut-être. Je lui parlerai de vous. Il connaît tout le monde là-bas. On pourrait vous caser à l'opéra ou à l'opéra comique. Qu'en dites-vous ? Ah oui, cela vous étonne un peu ? Mais j'aime les artistes. Il me peine de vous voir dans les griffes de ce marchand de bestiaux. Vous êtes malheureuse, je le vois. Il est impossible que vous aimiez Groschet, donc je vous tire de votre prison. Une fois casé, vous garderez un bon souvenir du vieux papa de Ribard et vous lui permettrez d'aller vous baiser la main lorsque ses affaires l'amèneront à Paris. Le baron alors propose alors à Cécile de venir dans le salon de son fils, Georges, député à Paris, et où se trouve un piano. Comme cela, elle pourra travailler son chant pour l'audition future à Paris. Et le lendemain, Cécile va se rendre chez le baron. Mais plus tard, elle apprendra du valet, du baron, le valet Joseph, ce que faisait le baron pendant qu'elle jouait sur son piano. Et je cite toujours dans le livre, le valet Joseph. « Le vieux singe a une manie. Vous les saviez mieux que moi, pas vrai ? Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il trouve un moyen de faire des photographies. Faut-il qu'il soit malin ? Il vous pose, bon, tournez la tête comme ça, les yeux par là, regardez de côté, ne bougez plus, restez ainsi que je vous admire. Oh, la belle statue ! Quel bras ! Quel sein ! Vous êtes distraite, vous regardez dans un coin, une potiche ou un gland de la portière et crac ! Mon vieux vous a pigé dans son petit appareil. Il doit se monter des collections, ce type. » Et c'est cela que faisait le baron de Ripart. Il lui demandait aussi de se déshabiller un peu juste pour regarder. Et il faisait des photographies de la pauvre Cécile. La semaine prochaine, je vous parlerai des autres personnages de ce livre et de la fin tout à fait héroïque.